Radio Okapi.
Les obsèques de Jean-Jacques Mutombo Dikembe auront lieu ce samedi 12 octobre à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. La légende américaine de basketball et d'origine congolaise est décédée le 30 septembre d'un cancer de cerveau à l'âge de 58 ans. Des cérémonies sont organisées notamment à Kinshasa pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Plus de 11 000 personnes sont retournées à Mwanga en Ituri depuis décembre 2023. C'est le résultat de l'engagement pris par le groupe armé FPIC de cesser les hostilités, sans oublier la présence des FRDC dans la zone. Mwanga a été le théâtre des violences armées il y a un peu plus d'une année. Pasteur Alexandre Balissi Sibulenge est l'invité de ce journal. Cet habitant de Kindu a pu produire en grande quantité les oignons et les pastèques là où on ne croyait pas qu'au Maniema qu'une telle culture pouvait réussir. Il en parle dans ce journal au micro de Florence Kizalunga. Bonjour à tous. Décédé le 30 septembre dernier, Jean-Jacques Mutombo Dikembe sera mis en terre ce samedi 12 octobre en Géorgie à Atlanta aux États-Unis d'Amérique. Ici à Kinshasa, les hommages fusent de partout. Une double veillée mortuaire a été organisée la nuit dernière simultanément à Kinshasa, à savoir au gymnase du Stade des Martyrs et à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, fondé par l'ancienne star de la NBA. Vanessa Kongolo y était. Voici son reportage.
À l'hôpital Marie Biamba Mutombo, la tristesse est grande. Les effigies des Mutombo sont partout. Dans la cour de l'hôpital aménagée pour la veillée mortuaire, les agents, les notables et habitants de Massina défilent pour rendre hommage aux philanthropes qu'ils ont ou pas vu de son vivant.
De vie, je ne les connais pas. Mais pour moi, je vois les résultats, c'est un bon.
De son vivant, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé cet hôpital. Il disait toujours, je passe tout mon temps dans les avions pour vous chercher des matériels, il faudra protéger, donc il aimait beaucoup son hôpital.
De Massina, nous nous rendons au gymnase jumelé du Stade de Martyrs. Ici, les sportifs, les autorités et membres de la famille sont réunis pour rendre hommage à la légende de la NBA. Une cérémonie d'hommage organisée par le ministère congolais des sports. La chorale symphonique kimbanguiste et Moïse Mbillé ont animé cette soirée. Ceux qui sont passés entre ses mains promettent de pérenniser sa mémoire.
Ici aujourd'hui je suis basketteur, c'est grâce au grand frère que je suis passé par les mains de Dikembe Mutombo. Comme vous m'appelez président, c'est déjà je suis en train de continuer ce que j'ai reçu venant de lui.
Pour rappel, Mutombo Dikembe est décédé à l'âge de 58 ans d'une tumeur au cerveau.
Au sud Kivu, les jeunes avous de Kalehe pleurent leurs parents, frères et sœurs victimes de la noyade du 3 octobre dernier dans le lac Kivu à Goma. Vêtus de noir, ils ont organisé des manifestations hier après-midi sur la place de l'Indépendance dans la ville de Bukavu. Ces derniers ont saisi cette occasion pour réclamer la réhabilitation de la route nationale numéro 2 Kavu-Musake, la mise à la disposition de la population des canaux rapides ainsi que la libération du tronçon Minova-Sake occupé par le 120. Prudent Moroula Chanvo, président des jeunes avous de Calais et Littoral, est dans cet extrait sélectionné par Rachel Kiesembangu.
Le symbole qu'on est en train de faire présentement, c'est juste un deuil communautaire en mémoire de nos parents, mères, frères et sœurs qui nous ont laissés à travers la récente noyade qui se vit sur les lacs Kivu au niveau de Minova et Goma. Alors nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas faire passer inaperçu cette énième catastrophe qui venait encore de frapper le territoire de Calais. Lors de la noyade au niveau de Mukwija, le président de la République avait descendu à Mukwija. Il avait promis la construction urgente de la RND Bukavu, Sake, mais jusqu'à maintenant, aucune concrétisation. Il avait en même temps promis de doter au territoire de Calais les canons. Ces canaux, nous les voyons faire des courses Goma, Bukavu, mais à Calais, on n'a jamais vu. Mais si on pouvait en avoir, ils pouvaient tant soit peu essayer de réduire les risques qu'il y a sur les lacs Kivu.
En plus bref, dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, au moins 2 personnes ont perdu la vie et 2 autres ont disparu dans le naufrage d'une pirogue de pêche hier dans la soirée sur les lacs Édouard. Le drame est survenu au large des côtes de l'enclave de pêche de Vichumbi dans le parc national de Virunga. Selon une source de la coopérative des pêcheurs de Virunga, Copévi, la pirogue provenait de Lunyasenge, territoire de Lubero, où son moteur en panne devait être réparé. C'est au cours du retour vers Vichumbi transportant une dizaine de passagers improvisés que l'embarcation aurait connu un nouveau problème de fonctionnement à moins de 500 mètres du quai d'accostage. Les corps d'une jeune femme et de son enfant ont été retirés des eaux alors qu'un homme et une autre femme sont comptés parmi les disparus. Les recherches se poursuivent, indique notre source. Nous en parlions dans le sommaire. En Ituri, plus de 11 000 personnes sont retournées dans le groupement Mwanga depuis décembre 2023. C'est dans la chefferie de Baboa Bokoe, dans le territoire d'Irumu. D'après les autorités coutumières locales, cela est consécutif au respect de la signature d'accord de cessation des hostilités par le groupe armé FPIC, Front Patriotique et Intégrationniste du Congo, ainsi que la présence des militaires FARDC dans la zone. Il y a un peu plus d'une année, la région de Mwanga était le théâtre de violences armées ayant occasionné le déplacement de plusieurs familles vers d'autres localités. Jean-Claude Lokidile revient de cette région. Voici son reportage.
Mwanga, jadis ce théâtre des affrontements entre les différents groupes armés, renaît de ses cendres. Des maisons qui étaient incendiées sont de nouveau reconstruites. Des boutiques ont réouvert leurs portes. Écoles et structures sanitaires sont de nouveau opérationnelles. Isaac Kimbabo est le chef de l'entité.
Toutes les communautés fréquentent ces milieux. Les jeunes viennent ici, ils passent la nuit à Mwanga, partagent un verre ensemble, puis ils repartent le lendemain sans problème. Il n'est pas question de demander l'identité de telle ou telle autre personne. Ça, c'est du passé.
Des marchands en provenance de différents coins du territoire de Djougou et d'Irumu fréquentent de nouveau ce milieu. Les uns viennent se ravitailler en produits vivriers, d'autres pour les affaires. C'est le cas de ce conducteur de taxi moto qui salue cette accalmie.
Ces derniers temps, tout se passe bien. Nous circulons sans problème. Je souhaite que cette accalmie perdure pour que nous puissions circuler librement comme par le passé.
La population demande aux autorités de pacifier totalement cette région où beaucoup de défis sécuritaires restent à relever en mettant en œuvre le programme des DCS. De retour des Mwanga, Jean-Claude Luki, Dile, Radio Kapi.
Parlons sécurité dans le territoire des Niragongo, Nord Kivu. 5 présumés bandits ont été arrêtés et 5 armes de type AK-47 récupérées par les forces de l'ordre dans une maison jeudi soir au village Ngangi 2 dans le groupement Munigi. Les sources administratives parlent des résultats d'une fouille qui a été menée par la police en réponse à des alertes de la population. Une opération qui, pour le secrétaire exécutif de la société civile du territoire de Niragongo, renforce la collaboration civilo-militaire dans cette zone en proie à l'insécurité. Écoutons Thierry Gassissiro, joint par Bernard Danyangi.
Nous saluons cette bonne et étroite collaboration qui commence déjà à porter de bons fruits dans les territoires de Niragongo entre la population et les services de l'ordre et de sécurité qui vient de réaliser un travail de titan ce 10 octobre 2024 où après plusieurs alertes, la police a procédé aux fouilles systématiques des maisons suspectes des bergers de bandits. C'est le village Ngangi 2 ainsi que des villages environnants qui subissaient de temps en temps des cas d'incursion, des cambriolages des maisons. Nous encourageons les autorités de la police à continuer à fouiller des maisons suspectes partout dans le territoire de Niragongo qui pourraient héberger des bandits. Et c'est ainsi que l'on pourrait mettre fin à cette insécurité. Mais également, nous demandons aux services de la justice maintenant aussi de faire leur part de travail afin de punir pédagogiquement tous ces bandits impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces genres d'insécurité dans le territoire de Niragongo.
Dans l'ouest du pays, à Kisantu, province du Congo central, un chauffeur de remorque a été condamné à 8 mois de servitude pénale. Le tribunal de paix de Madimba Inkisi qui a rendu ce verdict à l'issue d'une audience publique l'a reconnu coupable de rébellion, destruction volontaire et ivresse publique pour avoir agressé des agents de la police de circulation routière en plein service. Le responsable de la PCR à Inkisi qui a porté cette affaire en justice salue ce verdict. Pour le major John Kibangu, cette décision de la justice tombe à point nommé pour décourager les agressions courantes dont sont victimes les policiers de circulation routière de la part des camionneurs. Le point avec Nana Plurich-Mambo.
En plus de son emprisonnement, ce chauffeur poids lourd nommé Jean-Marie Mpolo d'environ 30 ans doit aussi payer une amende de 500 000 francs congolais et verser les frais de dommages et intérêts s'élevant à 4 millions de francs congolais répartis comme suit. 2 millions pour un agent PCR blessé et 2 millions pour un autre plaignant avec des frais judiciaires à régler dans les 15 jours suivant la décision. En effet, le camionneur Jean-Marie Mpolo avait laissé son véhicule sur la route nationale numéro 1 à Kikonka le dimanche soir du 6 octobre pour se rendre chez sa maîtresse, ce qui avait entraîné un embouteillage empêchant les passages aisés des véhicules. À son retour, il a agressé violemment en compagnie de ses convoyeurs des agents de la police présents près de son véhicule, endommageant leur téléphone et leur infligeant des blessures. Le major John Kibangu, responsable de la PCR d'Inkissi, salue la décision de la justice qui va servir de leçon à d'autres usagers de la route qui oseraient de se comporter de la sorte devant un agent de l'ordre. Pour lui, cet incident est la preuve éloquente des agressions courantes dont les PCR sont victimes de la part des chauffeurs et des motocyclistes. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
À Kinshasa, revenons sur l'affaire Seth Kikuni et notez l'envoi en fixation du dossier de l'opposant politique congolais devant le tribunal de paix de Kinshasa Gombe par le parquet général. En attendant la date du procès, le cadre de concertation des forces politiques et sociales exige du gouvernement congolais la libération immédiate de l'opposant politique Seth Kikuni. Dans une déclaration faite hier à l'issue de sa réunion, le cadre de concertation pense qu'il n'y a aucune garantie d'un procès équitable ni d'un jugement impartial de la part d'une justice tiré par la corde, selon ses propres termes. Seth Kikuni est accusé, je vous le rappelle, d'incitation à la désobéissance civile et la propagation présumée des faux bruits. On écoute à ce sujet le porte-parole du cadre de concertation Kasongo Ilunga dans cet extrait proposé par Jeff Ngoy.
Le cadre de concertation des forces politiques et sociales a appris avec étonnement la fixation du dossier de M. Seth Kikuni devant le tribunal de paix de Kinshasa Gombe, et ce, malgré son pressant appel au gouvernement à libérer sans condition le concerné et tous les opposants arrêtés et détenus illégalement pour leur opinion politique dissidente. Le cadre de concertation réitère sa vive condamnation de l'arrestation et de la détention de M. Seth Kikuni ainsi que le poursuivre suite politico-judiciaire engagée contre sa personne en violation flagrante de ses droits fondamentaux lui garantis aussi bien par la Constitution que par les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Il dénonce l'instrumentalisation politique d'une justice aux ordres qualifiés de malades aux fins de taire toutes les voix discordantes.
Province du Tanganyika, une dizaine de cas confirmés de rougeole sont enregistrés dans la zone de santé de Manono à la 40e semaine. Se confiant ce samedi à Radio Okapi, le médecin-chef de zone de santé indique que MSF France a donné des médicaments pour la prise en charge gratuite des malades de rougeole. Docteur Patrice Sango lance un message de sensibilisation à la population pour prévenir cette maladie. Il est au micro de Paul Amunanga.
Depuis la semaine 36, on avait commencé à notifier les cas de rougeole. Et à la semaine 37, on avait 27 cas suspects de rougeole. Et à la semaine 38, c'était 29 cas de rougeole. La semaine 39, on avait un peu chuté à 12 cas suspects de rougeole. Et la semaine 40, on a notifié 20 cas de rougeole. Ces cas-là, on avait pris des échantillons qu'on avait envoyés au laboratoire et plus de 10 cas a été déjà positif. La prise en charge est gratuite. Nous avons réussi une dotation de médicaments pour la prise en charge des cas de rougeole simple et même des cas de rougeole compliquée de la part de MSF France. Et on continue donc à sensibiliser la communauté parce que la rougeole c'est une maladie qui est contagieuse et que si un enfant atteint de rougeole, il peut contaminer les autres. S'il y a des enfants dans la communauté avec éruption cutanée, fièvre, qu'on les amène le plus tôt au niveau de la structure sanitaire la plus proche.
Santé encore, au Nord Kivu. Tous les enfants concernés par la vaccination contre la poliomyélite seront vaccinés malgré le contexte sécuritaire volatile dans les régions de Beni, Butembo et Lubero. Cette assurance a été donnée par le chargé de communication de la division provinciale de la santé DPS, antenne de Butembo, qui couvre toute la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Selon Damou Loulou Havo, Toutes les dispositions sont déjà prises pour permettre à tous les enfants âgés de 0 à 59 mois d'accéder au vaccin lors de la campagne de vaccination qui a débuté le jeudi 10 et se clôturera ce samedi 12 octobre. Il s'est exprimé au téléphone de Grévis Salomon.
Par rapport à la vaccination des enfants en déplacement, tous seront vaccinés là où ils habitent. Et on ne va pas demander à ceux qui rentrent là où ils habitaient avant. Partout, même dans des cas de déplacés, il y a des sites qui sont déjà connus au niveau de chaque entité sanitaire. Et le vaccin a été déjà déployé partout, même dans des lieux sécurs, même dans des lieux très éloignés.
Nous remercions tout le monde qui s'est impliqué par rapport à ça, puisqu'il y avait quelques soucis par rapport même à l'accès à ces zones de santé, aussi du territoire de Lubero, voire même dans le secteur de Bapere. Et nous saluons ici l'implication des autorités politiques administratives, tous les partenaires et tout le monde.
Actualité internationale.
En Centrafrique, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, BRDC, qui regroupe les principaux partis de l'opposition, dénonce une mafia organisée dans le secteur des hydrocarbures par les autorités pour tirer profit des pénuries à répétition dans le pays. Cette position du BRDC a été exprimée hier lors d'une conférence de presse à Bangui. Ont également été abordées la question de la recrudescence de l'insécurité ou encore le recrutement des Centrafricains pour le groupe Wagner pour combattre aux côtés des Russes en Ukraine. Mais le gouvernement centrafricain assure que ces informations de recrutement des jeunes est fausse et émet également un démenti au sujet des hydrocarbures. Le rapport du GTSC contient trop de contre-vérités, selon le ministre centrafricain de l'énergie.
L'invité.
Pasteur Alexandre Balissi Sibulenge est l'invité de ce journal. Cet habitant de Kindu a pu produire en grande quantité des oignons et des pastèques là où on ne croyait pas qu'au Maniema, une telle culture pouvait réussir. Pasteur Alexandre Balissi Sibulenge nous partage son expérience à travers cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Pasteur Alexandre Balissi Sibulenge, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est possible de nous partager votre expérience? Comment vous avez réussi à produire en grande quantité les oignons rouges et blancs dans la zone comme Kindu?
Ok, nous avons commencé d'abord par l'expérimentation et après avoir essayé, notre sol était rentable. Ainsi, nous avons pris quelques qualités, les oignons blancs et les oignons rouges. On les a semés dans les pépinières et après, on les a transplantés pour avoir labouré. Mais c'est un grand travail. Cherchant à produire mieux, on devait aussi mettre quelques engrais, quoi. Et c'est ce qui nous a permis à produire un peu beaucoup de oignons.
Est-ce qu'il en est de même pour la culture des pastèques aussi que vous avez?
Oui, pastèque, c'est si simple. Le pastèque, on l'a tellement produit, seulement il faut beaucoup de support pour le protéger et beaucoup de propriétés. Le pastèque répond très bien sur notre sol.
Et les semences, vous avez un partenaire qui vous a donné ça ou soit vous-même vous avez acheté?
Non, on en a payé d'abord ici, on a eu beaucoup d'échecs à partir d'ici. Et quand on partait à Bujumbura, on a eu l'expérience, on a eu d'autres boîtes là-bas qui étaient bien conservées. Et c'est ce qui nous a permis de nous relancer.
Vous avez produit ça pendant la saison sèche avec la problématique d'eau. Est-ce que l'opération d'arrosage a été si facile pour vous?
Non. L'arrosage n'a pas été si facile parce que c'était à contre-saison. Nous devions avoir de motopompes et puis de l'essence qui nous coûtait aussi très cher. On arrosait. C'était vraiment un travail lassant. Donc toute la saison, il faut arroser pendant la saison sèche. C'est ce qui a permis que nous puissions avoir quand même ces produits-là.
Alors comment vous organisez aussi les marchés de ces oignons et même les soja que je vois ici?
Dans un premier temps, on a fait d'abord le marketing, tout le monde n'est pas tellement chaud, mais est-il que nous devons organiser ce marché en ayant d'abord un endroit propice pour placer ça? Parce que des fois quand on est au marché, c'est va que vaille, hein. Sinon ça ne va pas. Des fois vous êtes dans les caprices des femmes de marché, mais si on peut avoir un point de vente, ce serait une très bonne chose. On s'organise encore.
Pasteur Alexandre, quelle est la dimension de votre champ?
C'est environ presque 200 mètres sur 200. Mais on a planté sur 200 mètres, sur 170, comme ça.
C'est-à-dire, comme les gens imaginaient que les oignons, les pommes de terre, les pastèques ne peuvent pas être cultivés humainement, c'est juste une utopie.
Une utopie, ils n'ont jamais expérimenté ça. La terre du Maniema est tellement très riche. Mais seulement il y a beaucoup de paresseux, c'est ça. Parce que c'est la culture maraîchère demande beaucoup d'efforts, beaucoup de main d'œuvre, et beaucoup de gens ne veulent pas travailler. C'est pourquoi on a des difficultés pour faire de grands champs. Mais si on trouvait beaucoup de gens pour travailler, ça aurait été très mieux. La terre répond très très bien.
Vous avez des ouvriers ou bien vous vous occupez vous-même de votre champ?
D'abord on s'occupe nous-mêmes et on engage des journaliers. Nous avons des journaliers pour ces travaux.
Est-ce que ces journaliers répondent favorablement à vos besoins?
Non.
Parce que vous venez de dire qu'au Maniema, il y a des paresseux.
Ils sont tellement capricieux et ils vous facturent à partir de l'intérêt que vous aurez. C'est ce qui est mal. Nous voudrions avoir des gens à engager. Nous cherchons d'ailleurs déjà pour engager dans les champs.
Alors, pour ceux-là qui ne croyaient pas et que vous êtes là un exemplaire où vous avez produit ces semences dans notre province, quel message que vous avez à leur regard?
Non, nous les appelons à être à nos côtés pour avoir de l'expérience. Ça va nous aider tous.
Alors, aux autorités?
Aux autorités, nous aimerions que les gens, qu'ils donnent la route pour que les produits nous arrivent facilement. Quand on paye des produits par l'avion, ça coûte très cher. Mais quand il y aura des routes, je crois que tous les produits seront là et qu'ils favorisent surtout les hommes d'affaires à venir investir dans les maniements en ce qui concerne les produits maraîchers. Nous sommes butés à un problème, il n'y a pas de ponts, de routes. Voyez, quand on doit évacuer des produits à partir des motos, à partir des vélos, ça nous coûte très très cher. Mais s'il y a des routes à des certes agricoles où les véhicules peuvent arriver jusqu'au niveau du village, ça serait une très bonne chose.
Pasteur Alexandre Balsisi Boulenge, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie beaucoup, je vous en prie.
Et c'est la fin de ce journal de 15 heures présenté par Noëlla Luzitu Kabambi dans une mise en onde de Alain Ngoy et Mimi Kindou, un journal coordonné et supervisé respectivement par Jacques-Yves Molima et Alain Irung. Merci à vous tous pour votre attention. Restez en compagnie des autres programmes de Radio Okapi, le média de la paix.